Les entretiens de l'entre-deux. Evelyne Poincheval, l'invitée du jour.
Constance Boulet, j'ai vécu en campagne à Vazougé. Aujourd'hui, je vis à Laval, en milieu urbain. Je suis maman de 4 enfants et petite, j'ai toujours créé. À l'heure actuelle, je suis artiste. En 2000, j'étais une adolescente qui passait beaucoup de temps à rire, mais on peut dire que j'étais à la fois joyeuse et triste.
Quelle était l'importance de ce beaucoup de temps à rire ?
J'avais besoin de décompresser et de retrouver mes amis en fait, de l'époque, garçons-filles mélangés, avoir le monde autrement. Donc rire, c'était un échappatoire.
C'était un échappatoire, d'accord. Et vous alliez au collège uniquement pour rire ?
Le collège, en soi, on étudiait les cours, mais ça ne me semblait pas encore... important en fait, je voyais pas l'importance des cours, donc oui, les amis c'était plus important que tout en fait, les cours de récré, le passage au self, c'est très important pour moi de rire au collège. Donc le collège avait son importance, ensuite il y avait la famille, mais le collège avait beaucoup d'importance.
D'accord, donc c'était peut-être votre petit début d'indépendance véritable, créer votre propre sphère.
Voilà, créer ma propre sphère avec mes amis, ceux que j'avais choisis, et puis passer le temps à rire, quoi.
Passer le temps à rire. Oh, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je passe mon temps à rire. C'est pas mal du tout, je trouve. On devrait tous essayer, arriver comme ça un matin au travail et dire « aujourd'hui, je passe mon temps à rire ». Est-ce qu'il compensait ce rire votre tristesse ?
Oui, je pense que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était une autre façon de voir le monde. Donc à la maison, j'étais plutôt triste, les parents étaient en train de se séparer à l'époque. Et du coup, le fait de rire, ça me rendait joyeuse tout simplement. C'était l'objectif, je me disais, quand je me levais le matin, je me réveillais, je disais l'objectif c'est de rire au moins une fois par jour.
Ah, vous n'étiez pas très gourmand,
C'était un fou rire.
Un fou rire.
Un fou rire par jour.
Et il durait combien de temps, ce fou rire ?
Au moins 5 minutes.
5 minutes, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous fâchait quand même ? Vous préoccupez tant dans cette adolescence pour être comme ça un peu, je dirais, on sent une forme de colère en même temps.
Ah, peut-être que j'étais en colère. J'étais éprise de liberté déjà. Donc la liberté, c'était très important pour moi. Je voulais pas me sentir entravée. Donc déjà, il y avait le carcan des cours, de bien se tenir, écouter les cours, réussir, avoir de bons résultats. Et donc, pouvoir rire avec les amis, ça me sortait un peu du quotidien. Et je dois dire que l'art faisait pas encore vraiment partie de ma vie. Donc en fait, en soi, j'avais pas vraiment d'échappatoire. Hormis les amis et de pouvoir discuter avec eux. Ensuite, je ne sais pas si je suis en colère. Peut-être que les autres sentent ça, mais moi, à l'époque, je me sentais fâchée. Je me sentais incomprise, en fait. Je n'ai jamais eu l'impression de me sentir à ma place. Et je me le sens toujours pas, d'ailleurs. J'ai toujours l'impression d'être...
Donc vous pouvez l'intérêt c'est que vous pouvez changer de place. Si vous n'en avez pas une, mais vous en avez des multiples.
Oui, sans doute. En tout cas, j'ai jamais l'impression d'être pas au bon moment, au bon endroit.
Voilà. D'accord. Et les autres, je dirais les autres adolescents, vous regardez particulièrement.
Oui, j'étais souvent moquée au collège parce que maman déjà nous habillait en velours côtelé. Et alors ça passait pas trop au collège. C'était plutôt l'époque des jeans. Et donc j'ai jamais été Après, peut-être que moi, je me suis construite là-dessus, mais j'ai souvent été pointée du doigt, un peu moquée, tout ça, parce que j'étais différente aussi. J'ai toujours gardé ce sentiment d'être incomprise.
Mmh, sentiment d'être incomprise, mais vous auriez souhaité quoi ? Être comme les autres ? Vous fondre dans la ressemblance ?
Je crois que oui. J'aurais aimé, mais j'ai pas réussi.
Est-ce que vous auriez vraiment aimé ?
Je sais pas. En tout cas, dans ma tête, à cette époque-là, je me sens pas à ma place parce que je me préoccupais d'histoires qui étaient loin de nous. Mais par exemple, je comprenais pas pourquoi il y avait la famine dans le monde, pourquoi il y avait des gens qui mouraient de faim, pourquoi il y avait des gens qui mouraient de froid, et que moi j'avais le droit de manger tout ce que je voulais à ma faim et que je pouvais m'habiller comme je voulais et avoir chaud et voilà. Et ces questions-là, j'arrivais pas vraiment, par exemple, à en parler à mes amis, ou je me sentais un peu trop différente. J'étais sensible à l'odeur des fleurs. Moi, j'ai beaucoup grandi en campagne, donc le chant des oiseaux, l'odeur des fleurs, la nature, tout ça, ça me nourrissait beaucoup, ça me ressourçait beaucoup. Et j'arrivais pas vraiment à avoir ces discussions-là avec les autres, ou en tout cas, j'osais pas les avoir. Et j'avais l'impression, moi, d'être en proie avec d'autres questions qui me dépassaient certainement, quoi.
Mmh. Qu'est-ce que vous auriez aimé changer dans le fonctionnement sociétal à ce moment-là ?
La tolérance.
La tolérance.
Ouais. La tolérance, le regard des autres, le fait de se dire que c'est pas parce que quelqu'un est différent qu'on doit le rejeter, en fait. Moi, j'ai beaucoup été rejetée au collège, quand même. J'avais pas beaucoup d'amis avant d'essayer de me fondre dans la masse. Et j'ai réussi à me fondre dans la masse à un moment donné. J'ai réussi à m'habiller comme tout le monde et tout. Mais au final, le caractère fait qu'on n'est jamais vraiment comme tout le monde. On est soi-même.
Voilà. Mmh. Chacun est différent.
Bah oui.
Mais
j'ai mis du temps à le comprendre.
Oui, mais c'est normal. Il faut du temps. Le temps, ça sert à ça, à comprendre, à s'accepter, à se dire j'ai le droit d'être comme ça.
C'est ça.
Oh, ça, c'est quand même.
Ouais, c'est chouette.
Fabuleux, ce temps-là. Mmh. Alors, vous auriez donc aimé un peu plus de tolérance. Peut-être aussi que les gens s'acceptent comme ils sont.
Oui. Oui, mais oui. Mais enfin, si on reste sur l'adolescence, à ce moment-là, je ne me disais pas forcément ça, mais j'étais plus tournée vers l'autre et le regard des autres, vraiment.
Mmh. Et vous aidiez les autres aussi ?
Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah, j'étais beaucoup dans l'empathie, même trop, tout me touchait. Si quelqu'un rigole, je ris, mais si quelqu'un pleure, je pleure. J'avais pas de distance.
La nature, on l'a compris, était un essentiel pour vous.
Oui.
Mais vous n'aviez pas la sensation dans ce milieu rural, parfois, qu'il y avait un manque d'équipement ou un manque de communication ?
Non, pas vraiment. Non, je n'avais pas ce sentiment-là. Vraiment, la nature a fait que ça a été ma première source d'inspiration, en fait, vers l'art. Mmh. C'est là où nous, on vivait à côté d'une mare, enfin pas d'une mare, mais d'une sorte de rivière, voilà, d'un plan d'eau, et qui était argileux en fait. Donc je récupérais l'argile du plan d'eau, et puis avec la terre que je nettoyais et tout, parce qu'il y avait des vers dedans, enfin bref, l'argile pure à l'état pur. Et je travaillais la terre pour faire mes premières sculptures en fait. Et la nature était pour moi une façon de faire de l'art en fait, tout premier quoi.
Et vous n'aviez pas le désir d'une mobilette, d'un engin qui pétarade ? Non ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Ah, mais pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, du tout, du tout. Par contre, j'avais envie d'être libre. Et le fait d'habiter en campagne, ça m'empêchait quand même mon indépendance.
Alors, vous n'aviez pas forcément envie d'un engin pétaradant, mais je crois que, par contre, vous aviez celui d'écouter Britney Spears.
Oui. Oui, Britney Spears, je l'ai beaucoup écoutée à l'adolescence. Oui, complètement. C'était, je la trouvais jolie, je la trouvais comme tout le monde. Voilà, je la trouvais.
Vous la trouviez comme tout le monde.
Je la trouvais. Elle était pas forcément. C'était pas un idéal de beauté, mais presque. Les cheveux longs, blonds, des grands yeux. Elle avait ce qu'il fallait où il fallait. Très jolie. Attention. Elle se tenait bien. Donc tous les stéréotypes réunis en un seul.
D'accord.
Et en plus de la musique que j'adorais écouter, quoi. Donc ouais, ça c'est mon adolescence, Britney Spears.
Mais les paroles n'étaient pas très 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 gaies quand même.
Pas toutes, non.
Dans le titre que vous avez choisi, elle dit qu'à chaque fois qu'elle veut prendre son envol, elle tombe sans ses ailes.
Ah bah oui. Je l'ai dit au tout départ, j'étais à la fois joyeuse et triste, mais ça me correspond
d'accord.
Bien cette chanson.
Bon, voilà, bien on va l'écouter alors. Strong. Sur fréquence IE 97.9 FM, juste dans l'entre-deux, des entretiens de l'entre-deux. À la technique, Nicolas Delacour et l'invité du jour, Constance Boulet, qui a vécu en campagne à Bazougé, puis à Laval, en milieu urbain, maman de 4 enfants, artiste en pleine floraison. En 2000, elle était une adolescente qui passait beaucoup de temps à rire, était à la fois joyeuse et triste, je dirais aussi à fleur de peau. Cette peau qui très tôt vous a questionné puisque vous avez commencé à créer avec notre deuxième peau à toutes et à tous. Je veux parler du tissu, bien entendu. Quand est-ce que vous avez eu ce coup de foudre pour cette deuxième peau ?
Pour le tissu. Donc j'avais 8 ans. J'ai fait mes premières peluches avec du tissu que je récupérais à maman, qui en fait nous faisait ses déguisements, qui nous faisait nos déguisements pour le carnaval, et elle laissait des morceaux de tissu, et du coup je récupérais un peu les tissus et j'allais faire fabriquer mes poupées en couture. Donc au départ ça a commencé comme ça. Donc voilà, j'ai 8 ans, ensuite j'ai 10 ans, je vais un peu plus loin, je fais pas encore mes poupées mais je fais mes doudous, donc je passe de doudou à poupée. De poupée, je commence à me faire des petites tenues, des choses, voilà. Mais ça reste toujours artistique, en fait. C'est jamais vraiment genre... C'est pas une robe, c'est une robe avec des têtes de doudou. C'est un peu combiné, voilà. Et puis, j'arrive à l'adolescence et là, tout s'éteint. En fait, il n'y a plus d'art plastique. Je suis concentrée sur autre chose, en fait. Sur mes propres soucis, sur les parents qui se séparent, sur ma tristesse à moi, et le fait que j'ai envie de passer mon temps à rire. Et puis les cours et tout ça. Et en fait, ça va venir plus tard, en fait. Donc, je vais retrouver l'art plastique quand je vais arriver en seconde.
Donc là, cette création à l'adolescence est restée en suspension.
Pas de création à l'adolescence, oui, complètement.
Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que ce langage poussier ne correspond plus à votre virilité ?
Je sais pas. C'est Freud.
Il y a un moment quand même où on est moins à faire, comment je dirais, à s'occuper des poupées et des doudous, non ?
Oui, et pourtant j'en ai recréé des poupées et des doudous puisque je l'ai recréé, mes versions XXL. Donc en fait, je sais pas, il y a eu ce moment-là où paf, il n'y avait plus rien dans l'art qui j'arrivais pas à m'exprimer. En fait, je ne voyais pas l'art comme un moyen d'expression, ça ne faisait pas partie de moi à ce moment-là. C'était peut-être enfoui, mais en tout cas, moi, j'en avais pas conscience. Et donc, ce qui s'est passé, donc, j'arrive à l'adolescence, donc, non, fin d'adolescence, j'arrive en seconde, et en seconde, on a le droit de prendre l'option art plastique. Et donc, je choisis cette option art plastique au lycée Douanier-Rousseau à Laval, et en fait, je me sens emballée, et je continue ces 3 années comme ça, je passe le bac, et après le bac, je me dis... Cette fois-ci, je consacre ma vie à l'art et je fais des études d'art.
D'accord. Mais est-ce que c'était aussi une façon de faire ces études autour de l'art, une façon de peaufiner le vôtre ?
Peut-être que ça m'a nourri. En fait, c'est sûr que ça m'a nourri, mais enfin, je n'étais pas encore dans cette démarche où je me disais moi-même, je serais artiste, en fait. Quand j'ai vraiment créé, artistiquement parlant, vraiment mes poupées, mes grosses mères, mais vraiment ma sculpture textile que j'appelle mes grosses mères. Ouais. On va y aller, ça va être plus clair. J'ai 30 ans en fait. D'accord. Donc j'ai déjà 30 ans. Donc en fait, il s'est passé 15 ans où je n'ai pas créé pour moi, où j'ai créé pour avoir des diplômes, pour me former, pour enseigner. Et je n'ai pas encore créé pour moi, en fait. Enfin, c'est dommage, j'aurais bien aimé être une artiste comme tous les artistes. Et encore une fois,
je suis pareil.
Non, je crois pas. Les artistes, eh ben, ils démarrent tout de suite dans la création. Et voilà. Et j'ai eu plein de passages à vide, en fait. Et donc, ces passages à vide, bah, je les ai remplis comme j'ai pu. Mais c'était...
Avec du rire.
C'est ça.
Avec du temps. Avec du temps pour glaner.
C'est ça, oui, beaucoup de temps pour glaner. Et donc, on arrive et j'ai 30 ans. Et là, à 30 ans, j'ai eu mes enfants. J'ai eu d'ailleurs un petit garçon toute seule parce que le papa est parti sans s'occuper de moi et de mon petit bonhomme. Et donc, il a fallu que je vive et il a fallu que je nourrisse ce petit garçon-là. Et donc, j'ai enseigné pour pouvoir nourrir ce bébé. Mais j'ai enseigné dans l'art. Et j'ai fait des musées avec ce petit garçon et je me suis dit que moi aussi j'avais des choses à dire et j'ai 30 ans et à 30 ans, et ben, je commence mes grosses mères.
Alors voilà, ça c'est là le début de l'œuvre phare de Constance, des grosses mères. C'est quoi des grosses mères? Mais c'est quoi?
Mes grosses mères, c'est des êtres hybrides, un peu, je dirais pas chimériques, mais dont ils perdent leur tête. C'est des femmes avec des gros seins, avec des gros membres, avec des bras qui s'élargissent, avec des jambes qui se multiplient. Et elles sont molles, donc c'est vraiment, il faut les imaginer comme des poupées de chiffon. Elles sont faites justement de tissus que je vais aller glaner dans les Emmaüs, dans les recycleries, ou même parfois que les gens m'apportent parce qu'ils sont touchés par une de mes sculptures et qui me disent « bah voilà, il y a ma grand-mère qui est décédée récemment, je ne sais pas quoi faire de tous ces tissus, est-ce que ça vous servirait ?» Évidemment, à bras ouverts, je récupère les tissus et je les retravaille et ça devient des grosses mères.
Ça devient des grosses mères. Alors, c'est quand même assez... J'en ai vu quelques-unes comme ça traîner dans une grange. J'ai vu des pieds qui dépassaient, des doigts énormes, enfin allongés plutôt, des doigts très longs, pas énormes.
Oui.
Et c'est un peu déstabilisant, on va dire. Oui. On se dit, qu'est-ce qui se passe là? Vous les avez rencontrées où?
Mes grosses mères. Elles étaient avec moi toute ma vie, mais elles sortent maintenant. Sans doute. Bah, mes grosses mères, en fait, elles sont nées parce que donc, bah, j'ai élevé donc, ce petit garçon toute seule. Après, j'ai eu d'autres enfants. Hein. L'histoire se finit bien, je vous rassure.
Mais elle n'est pas finie, elle continue.
Elle continue, pardon. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai eu d'autres enfants. Et l'allaitement... ça a été hyper dur, hyper douloureux pour moi. J'avais pas de maman pour m'aider à me dire comment on met un bébé au sein. Les infirmières, bah, elles avaient l'habitude de dire faut faire comme ça, faut faire comme ça. Mais enfin bon, quand on se retrouve chez soi avec son petit bonhomme toute seule et qu'on a des seins énormes et qu'il y a le lait, il sort pas comme on veut. Et enfin, c'est cru, hein. Mais on est des mammifères, hein, donc on nourrit nos petits avec le lait. Ouais. Et ben, je savais pas comment faire. Et ça a été une grosse déception. Et je m'imaginais avec mon petit garçon en train de lui donner du sein parce que je pensais que c'était logique et naturel et que ça allait venir tout seul. Et en fait, ça a pas été logique, ça a pas été naturel. Et c'est pas venu tout seul et j'ai jamais réussi à donner le sein à mon bébé et pour moi ça a été une épreuve très douloureuse et du coup j'ai dû acheter un biberon et pour moi ça a été douloureux donc j'ai créé ma première grosse mère en lui créant plein de seins pour
oui,
remplacer.
Elle en a, quoi,
7 ou 8. Bon, moi je suis sûre qu'elle va nourrir les bébés du monde entier. Voilà, mais elle a pas de tête parce que je trouvais la tête pas importante et qu'on la reconnaît en fait comme grosse mère, on la reconnaît comme maman et comme elle a pas maman. Besoin d'avoir une tête pour dire que c'est une maman, donc je lui ai enlevé la tête.
Il lui faut du cœur et du
lait. Et voilà, elle met du cœur à l'ouvrage et elle a deux grands bras pour s'occuper du bébé et d'elle et plein de seins. Et ça, c'est la première grosse mère. Et après, il y en a eu d'autres.
Alors, elles ont pris quoi, celles-ci? Elles ont pris quelle allure? Qu'est-ce qu'elles racontaient?
Elles sont fortes, elles ont des grandes épaules très très grandes pour supporter leur mot entier, leur mot M-A-U-X, hein, n'est-ce pas? Elles ont des très grands bras, elles sont difformes, bah, elles ont toujours plein de gros seins. Parfois, elles ont des jambes, parfois, elles n'ont pas de jambes. J'en ai une qui s'appelle Cocotte. Cocotte, c'est une grosse mère handicapée. Donc, elle a une jambe de bois et elle a une autre jambe un peu comme un moignon. Mm-hmm. Voilà. Elle a deux gros seins et elle a pas de tête, mais par contre, elle a des petites ailes pour s'envoler.
Ah,
ça, c'est Cocotte.
Quand même.
Mais Cocotte, elle fait 2 mètres de haut. Donc, Cocotte, elle est quand même grande. Donc, c'est une grosse mère aussi.
C'est une grosse mère avec des ailes. Ça, voilà. C'est pas mal. C'est Mais ça, c'est sont vraiment, je dirais, est-ce que ça a un côté aussi pour raconter un peu l'histoire féminine, toutes ces grosses mères aussi, de toute la charge parfois qu'il y a.
Charge mentale.
Charge mentale, mais aussi le fait de courir après le temps, le fait d'être d'avoir aussi, je dirais, presque plusieurs choses à faire tout le temps, constamment.
Sans arrêt.
Il faut répondre. Être là. Et il n'y a pas véritablement de temps pour elle. Est-ce que ça raconte aussi cette histoire-là ?
Complètement. Et Evelyne, j'ai dit que vous alliez m'écrire un texte sur mes grosses mères. Je pense qu'on va y arriver. Hein.
Donc, ça raconte tout ça. Mais il y a un côté aussi très affectif dans ces grosses mères.
Oui, complètement. Elles sont généreuses, elles sont réconfortantes. J'utilise du tissu qui est justement... c'est hyper important pour moi, mais le tissu, déjà en lui-même, il raconte une histoire. Parce que je vais garder les accros, je vais garder des trous, des choses qui m'intéressent dans le tissu. Mais je vais aussi le choisir pour sa matière. Donc, par exemple, Cocotte, elle est handicapée, mais elle est faite en velours. Donc, on a trop envie de l'aider, de la porter, elle est toute douce. Voilà, il y a Grosse Mère Mammifère, elle est avec des poils. Mais elle est aussi faite en pan de rideau. Vous savez, les pans de rideau 70s, là, un peu en velours serré sur les bras. Et en fait, j'avais besoin d'un très grand tissu, enfin un très long tissu, parce que je voulais que les bras fassent 2 mètres, presque 3 mètres. Et donc, ce pan de rideau qui faisait justement 3 mètres me permettait en un seul coup de tailler le bras dans la matière et puis de le coudre ensuite.
D'accord, donc il faut, vous faites appel, parfois vous lancez un appel, quelqu'un aurait des rideaux.
Cherche au don. Non, je ne fais pas d'appel, je n'en suis pas rendue là, mais alors les gens viennent vers moi. Vraiment pour me, ils me retrouvent sur Instagram ou ils me retrouvent sur Facebook ou voilà ou sur mon site internet et puis ils me disent voilà j'ai des tissus à vous donner et sinon je vais tout simplement à Emmaüs. C'est vraiment mon dada. C'est ouais. Le samedi c'est Emmaüs. Mon mari le sait, il en peut plus mais c'est Emmaüs.
Il en fait pas lui de grosse mère ou de gros père.
Il fait pas de grosse mère.
Il a pas envie de raconter la vie d'homme.
Ah non, pas du tout. Non, mais il trouve ça à chaque fois, c'est toujours la même réaction quand il les voit naître dans le salon. Parce que bon, j'ai un atelier, mais c'est vrai que j'aime bien créer au milieu de mes enfants. Ça me nourrit.
Ouais. Et ça doit nourrir les enfants aussi. Ouais. Les grandes mamans qui construisent comme ça des grosses mères. Parce que ça, c'est des doudous extraordinaires.
Ah, géniaux.
Qu'on peut
géniaux,
prendre à plein bras.
Oui. Et puis les enfants, ils m'aident à les rembourrer. Alors c'est marrant parce que comme ils sont tout petits, et ils rentrent dans la grosse mère pour mettre la bourre dans la grosse mère. Et après, ils ressortent par les trous. Et après, je couds.
Ah, d'accord.
C'est drôle.
Oui, ils doivent avoir plein de
petits watts dans les cheveux.
Dans les cheveux
oui,
et
oui,
tout.
Oui. C'est très drôle, oui.
Ce sont les anges et grosses mères, alors.
C'est ça. C'est les petits cupidons.
Les petits cupidons.
Les angelos des grosses mères. Ils m'aident à les construire et aussi parfois ils me donnent leur avis, c'est assez drôle. Donc ils disent ah non, mais celle-là ça ressemble trop à la première que t'avais faite avec une jambe en bois, essaye plutôt avec ce tissu-là.
Ah oui ?
Oui, ils ont un regard sur la grosse mère et ça les choque même pas j'allais dire, ils sont en fait. Quand on parle de seins ou de choses, d'allaitement et tout, les enfants peuvent être gênés alors que là pas du tout en fait.
Ouais. Et la forme de le côté difforme ne les gêne pas.
Ça les gêne pas le difforme. Au contraire, ça nous permet de parler de handicap, ça nous permet de parler de monstruosité ou de que les gens sont différents et qu'il faut savoir les tolérer.
Et qui sont pas forcément moches pour ça.
Bah voilà,
ils
mais
ont
complètement.
Leur beauté.
Ils ont leur beauté intérieure et même leur beauté extérieure, j'adore.
Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que ça, vous travaillez aussi avec ce mot-là, moche.
Oui. J'adore dire le moche. C'est drôle. Oui, le moche, le difforme, l'informe, le différent. Je prône la tolérance, donc je prône toutes ces valeurs-là. C'est très important pour moi.
Est-ce que c'est aussi une façon de mettre une petite claque
Oui, à ce que j'ai vécu, sans doute. Peut-être qu'il y a de ça. Peut-être. Mais c'est aussi une façon de dire aux gens, au monde, aux spectateurs, à ceux qui vont croiser, aimer le différent.
Aimer le différent, c'est important. Et ça ne veut pas dire que ça peut avoir... Alors, on va le dire comme ça aussi. Ça peut avoir un espace un peu, de rétention ou un
oui.
peu rebutant au départ. Mm. Mais après, si on sait ouvrir une autre partie du regard ou de l'écoute, on comprend
les grosses mères.
Les grosses mères et leur humanité.
Oui, je pense qu'on comprend leur humanité. Une fois, il y avait une critique d'art qui s'était penchée sur mon travail et qui m'avait dit, et elle avait pas tort, mais parfois je prends pas le temps du recul sur mon travail parce que je crée vraiment par boulimie en fait. Donc je m'arrête jamais vraiment de boulimie de grosse mère. Je vais, j'en couds une, j'en découpe une autre, je me dis, ah mais il faut que je la fasse comme ça la prochaine, et du coup ça s'arrête jamais en fait. C'est une grosse charge énorme, les grosses mères, en plus elles sont énormes. Et alors ça prend beaucoup d'espace, mais bref, c'était pas ça que je voulais dire. Et la critique d'art, elle avait eu un mot très important, enfin une phrase très importante sur le travail où elle disait qu'en fait les grosses mères elles ont tellement des grands bras qu'en fait elles demandent juste à être regardées et elles attirent le regard vers elles. Et je trouvais ça beau.
Et un rapport de générosité.
Ah oui.
Elles ont un rapport de
complètement.
Est-ce qu'elles ont un petit côté aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'elles n'ont pas une forme de paresse comme ça quand elles s'étalent?
Un peu, oui. Elles en ont marre, elles sont fatiguées, on ne les regarde jamais.
Donc elles s'installent comme ça contre le mur.
Oui, puis pouf, elles attendent. Et je trouvais ça intéressant justement dans l'art. La sculpture, elle tient debout, elle a un socle, on tourne autour, mais elle n'est pas molle. Elle n'est pas molle. Et je trouvais ça intéressant justement de travailler la mollesse, de travailler cette attitude où on met un bras mais il retombe et ça tient jamais comme on veut. En plus, ça m'énerve parce que ça tient jamais comme je veux. Et je me dis, mais pourquoi t'as fait ça, Constance? Il faudrait que tu lui mettes une armature au milieu. Et jamais je le fais parce que je trouve ça hyper intéressant que le dos se voûte, les épaules se retombent. C'est comme quand nous, on est trop fatigués ou qu'on a trop... Vous savez, les petites mamies, elles sont toutes recourbées comme ça.
Parce quand on est déçu parfois.
Mais aussi, oui, ou quand on est trop triste, ou quand on a trop de charges, ou quand on est désespéré, ou quand on en a marre de la vie, et qu'on a les épaules qui se baissent comme ça, et je trouvais qu'elles avaient leur attitude. Alors je me suis dit, au final, c'est pas moi qui les sculpte, c'est elles qui sculptent toutes seules.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens dans les expos comme ça qui viennent s'asseoir entre leurs jambes et se poser contre leur ventre ou leur poitrine?
Alors, il y a un type de personne particulier qui fait ça. À votre avis, c'est qui?
Les enfants.
Bravo. Il n'y a que les enfants pour faire ça parce que les adultes, ils vont avoir ils sont habitués au cadre muséal ou au cadre galeriste ou d'exposition et ils vont se dire, on ne touche pas. Alors que les enfants, ils ont trop envie de toucher. Et du coup, ils viennent, et oui, c'est mignon parce qu'ils touchent les doigts, ils touchent les mains, ils prennent dans les mains et ils se roulent dedans. Oui, c'est vrai.
Ah, d'accord.
Ils viennent chercher, ils viennent s'asseoir entre elles. C'est trop mignon.
Alors, en ce moment, on peut en voir ces grosses mères.
Oui.
Donc,
un peu partout, d'ailleurs.
Un peu partout.
Un peu partout, oui.
Parce qu'il y a le château d'Arcy, c'est ça?
Alors, il y a le château des Arcis jusqu'au 15 juillet.
Qui est à pas loin de Mélédumène.
Voilà, en Mayenne, à Mélédumène. Donc, c'est un très beau château. Et donc, ils ont un très grand terrain qu'ils ont voulu investir cette année avec des artistes contemporains. Et donc, on peut y voir mes grosses mères. Donc voilà, il y a là. Il y a une galerie au Mans qui vient d'ouvrir, qui expose en ce moment mon travail. Et donc, le nom de la galerie, c'est quand même mieux si on l'a. C'est Mixta Media Galerie au Mans.
D'accord.
Mixta Media Galerie au Mans. Et puis, il y a la galerie à Saint-Nazaire qui s'appelle Le Collectionneur Ludique. Qui expose aussi mon travail.
Ça va bien, ça, le collectionneur ludique avec les grosses mères.
Bah ouais, ça va bien, ça matche bien. Et prochainement, donc, je serai présente à la Biennale Hors Normes à Lyon. Donc c'est un peu de route, mais c'est chouette.
Un peu de route, voilà. Et alors, les grosses mères, vous les mettez dans votre voiture quand vous les avez?
Ouais, ce qui est génial avec les grosses mères, c'est que je peux appuyer dessus et qu'elles restent toujours grosses mères. Donc j'en mets des tonnes de grosses mères dans ma voiture. Et même une fois, je me suis fait arrêter par les gendarmes, mais parce que je conduisais bien, c'était juste un contrôle de routine. Et il y avait une grosse mère qui avait la ceinture, alors c'était marrant, il y avait un passager grosse mère. Il m'a regardé un peu, genre, elle fait quoi? Il m'a pas posé de questions, mais j'ai bien vu dans son regard, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je n'ai tué personne, j'ai juste créé un individu.
Bon, donc vous pouvez aller voir dans tous ces endroits d'exposition.
Oui.
Il doit y en avoir un bientôt aussi du côté de la Belgique, non? De la Suisse, non?
En fait, je pars aux résidences au Liban. Voilà, donc pour créer des grosses mers. Oui. Et donc ce sera visible au Liban si vous y allez.
D'accord. Bon.
Mais j'ai quelque chose de plus simple, c'est mon site internet quand même.
Oui.
Voilà, c'est quand même plus simple pour suivre mes actualités et pour voir les grosses mers.
Parce que vous verrez ces grosses mers, mais il y a aussi des... Il y a aussi des relations très très différentes. Je pense à celle qui doit être Macage, je crois, qui est allongée au sol et qui est
Macage, qui est
enveloppée d'un tissu à carreaux et qui est très touchante. Mm. Et il y a une forme de solitude. C'est un peu peut-être. Je pense que ça touche chacun de nous quand on est dans des accents de solitude, cette forme le fait de se replier sur soi.
C'est ça.
Donc ça a une relation comme ça assez forte. Il y a celle qui a des cœurs brodés aussi sur sa poitrine. Il y en a une qui s'appelle comment, la Furibarde aussi.
Oui.
Attention, faites attention quand vous la rencontrez.
Ah oui, celle-là, elle est poignante.
Voilà, il va bientôt être l'heure de se quitter, Constance, mais avant de se quitter, avant que chacune reprenne son fil de vie, j'aimerais que vous nous parliez d'une autre Constance. J'aimerais que vous nous parliez de Constance Volant.
Constance Volante, c'était un peu un alter ego que je m'étais inventé. J'avais rêvé d'elle en fait, c'est vraiment l'histoire, c'était ça, j'avais rêvé de Constance Volante. Donc c'était un peu moi mais pas vraiment moi parce qu'elle était blonde et moi je suis pas vraiment blonde et elle avait des cheveux longs et moi j'ai pas les cheveux longs et en plus elle volait et moi je vole pas. Et elle avait des ailes dans le dos et donc elle vole et Constance Volante c'est devenu une sorte d'échappatoire, c'est-à-dire qu'en cours, quand je m'ennuyais, je rêvais de Constance Volante. Donc j'imaginais Constance Volante au-dessus de la tête du prof. Ou... elle était libre, elle. Voilà. D'accord. Donc c'est Constance Volante.
Elle vous nourrissait effectivement, mais elle était cette Constance-là. Elle était simplement heureuse d'être... Elle cherchait pas grand-chose. Pas de but.
Elle a pas de but, elle était juste libre. Elle volait et je l'imaginais voler et c'est tout. Elle était heureuse pour voler.
Ah voilà, c'est des temps comme ça qu'il nous faut dans la vie, n'est-ce pas ? Prendre du temps pour simplement s'imaginer en train de voler et en prenant c'est plaisir tout. Du temps qui passe, simplement, de l'instant. Merci, Constance.
Parce qu'elle est universelle. Parce qu'elle nous concerne toutes et tous. Parce qu'elle nous bouscule, nous chambarde, nous sculpte. Chaque semaine, dans les entretiens de l'entre-deux, avec un invité, nous parlerons de l'adolescence. Le mercredi, le vendredi à 10h, le dimanche à 20h, sur Fréquencier 97.9 FM.